franceinter.fr.
Ça se reconnaît, un écologiste.
Les quotas de thon rouge.
L'hydrogène, aujourd'hui, ne sert à rien.
Il y a urgence à agir pour sauver la planète.
CO2.
Sans produits chimiques.
Mon amour.
Avec tous ces oiseaux à la con, ils sont 5 ans.
Denis Chessou.
Bonjour à tous, bienvenue dans ce magazine de nature et d'environnement qui empêche de polluer, de réchauffer, de penser en rond, en tout cas qui essaie, et qui essaie aussi de prendre le temps de ne pas aller trop vite. Avec aujourd'hui Michel Thomas et Alexandre Chesneau à la technique, et assisté cette semaine de Juliette Hunin, c'est Fabrice Lègle qui réalise l'émission. Allez, une petite humeur. Le réchauffement climatique, notre addiction aux énergies fossiles, ça, je sais, vous êtes au point, d'où d'ailleurs le titre subtil de cette émission. Mais le septième continent, savez-vous ce que c'est? En fait, il flotte au milieu du Pacifique, il est grand comme 6 fois la France, il grossit d'année en année depuis 4 décennies, se promène sur une profondeur de 30 cm à 30 mètres, dans une soupe de microparticules de plastique décomposées par le sel, les UV, l'air océanique, dont se nourrissent les poissons, oiseaux et mammifères marins. Alors ce radeau propice est une aubaine en fait pour une sorte d'araignée qui est pour habitude de fixer ses œufs sur les déchets flottants. Ces araignées pullulent et dévorent ceux qui restent des jeunes alevins. Eh oui, les poussins d'albatros ont des chambres très très kitsch et coquettes, décorées comme des épiceries africaines, oui. Mais ils digèrent très mal les bouchons multicolores de bidons de soupline que leur apportent leurs parents à longueur de journée. Ah, c'est comme ça. Alors en ce moment, les instances internationales cherchent un petit nom à ce septième continent, donc poubelle flottante, car il est plus facile de s'attacher à quelque chose que l'on peut familièrement nommer. Où se trouve donc le Christophe Colomb moderne, conquérant, qui viendra planter sur ce continent nouveau la radieuse bannière de la gabegie ordurière internationale? Eh oui, quelle équipe de techniciens se penchera sur le projet d'un bateau-usine grand gousier, sorte d'aspirateur léviathan capable d'engloutir ce brouet indigeste et même d'en nourrir les chaudières de ses propulseurs, puisqu'il s'agit après tout des derniers avatars perdus de l'industrie des hydrocarbures? Eh bien, ça sera un des sujets choisis par Joël de Ronet, qui est donc le rédacteur en chef de cette émission. Et pendant ce temps, chez nous à Alès, vous connaissez Maurice André, le carreau de la mine, etc., riante cité du Gard, eh bien l'humanité est en marche. Oui, 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 vous aimez les chevaux, vous aimez les taureaux, vous aimez l'art et la virilité réunis, eh bien vous aimerez la corrida d'Alès ce week-end, oui, grâce au Picador et à sa corrida équestre. Figurez-vous que l'artiste plante 3 rejons, 3 rejons, c'est-à-dire des fers pointus crantés sur un manche long et cassant, sur le taureau, du haut de son cheval qui n'est pas protégé, ce qui fait qu'il peut y laisser tripes et boyaux, ce qui est excellent pour l'appareil photo du spectateur, faut quand même bien le dire, oui, oui. Et quand le taureau est fatigué, il descend le cheval et le tue plus ou moins rapidement, élégamment, parce que la Kalachnikov n'est pas en vente libre en France, contrairement à ces séances de barbarie qui, elles, sont en vente libre et financées en partie sur l'argent public. Et oui, qui a dit que notre pays était en crise, hein? C'est pas la peine de m'écrire pour dire que je suis un écolo, bobo, parisien de salon, dénué de sensibilité, qui n'a rien compris à l'art tauromachique. Je suis simplement du signe du taureau, donc évidemment je suis extrêmement solidaire. Qu'est-ce que vous voulez, on ne peut pas se refaire. Bonjour Joël de Ronet.
Bonjour.
Je suis ravi de vous accueillir. Vous êtes aujourd'hui bien sûr notre rédacteur en chef. Joël de Ronet, écrivain, scientifique, biologiste, d'abord spécialiste des origines du vivant, des nouvelles technologies, spécialiste de systémique. Et vous misez d'ailleurs depuis des années sur la pédagogie pour nous faire aimer le futur. Futur avec un avenir qui sera demain entièrement connecté, mais à la portée de tous, et où vont s'inventer de nouveaux modèles citoyens et environnementaux en particulier. Donc on va beaucoup parler de démocratie énergétique avec vous, mais dans cet ouvrage, donc, il s'appelle « Surfer la vie », comment survivre, alors survivre en deux mots, hein, survivre, vivre plus peut-être dans la société fluide. Vous prenez ce sport, vous avez été, on va dire, à la fois prévisionniste et puis un peu tonton surfeur, c'est-à-dire vous avez été un des premiers à lancer, on va dire, le surf du côté du Pays Basque. Eh bien, c'est une métaphore aussi de notre société. Racontez-nous.
Eh bien, la vie est une vague pour moi, c'est un flux. Il faut qu'on soit en équilibre dans cette vie, qu'on surfe ce flux, qu'on essaye de prévoir l'imprévu, les accidents, les problèmes. Eh bien, le surfeur sur la vague, c'est la même chose. La vague, c'est un flux, la vague se déroule. Elle est déterminée par une tempête quelque part dans l'Atlantique Nord, mais elle arrive sur le spot que je connais, je vais l'attendre, et sur cette vague, je vais être libre d'évoluer comme je veux. Donc la vie est à la fois déterminée, ma vie, la vôtre, et en même temps libre. Comme les stoïciens disaient, je peux bifurquer ici, bifurquer là. Donc j'ai choisi cette métaphore du surf pour éclairer ce que j'essaye de dire dans ce livre, qui n'est pas un livre que sur le surf, j'en parle un peu, bien sûr. C'est un livre, en fait, sur une philosophie de la vie. J'essaye de me fonder sur des valeurs pour donner aux gens qui surfent leur vie des conseils pour la réussir le mieux possible.
C'est-à-dire que quand on est sur une vague, on est dans un chaos organisé. Et donc, il y a cette notion à la fois, vous l'avez très bien dit, à la fois de déterminisme et de liberté. C'est-à-dire que la vague, bien sûr, va mourir, mais on peut recommencer, on peut en prendre une autre.
Voilà, c'est le symbole du phénix, de Faust. On repart, on lutte contre la mort d'une certaine manière. C'est ça qui fascine les surfeurs. Ce qui les fascine, c'est que les conditions changent tout le temps. C'est carpe diem, c'est maintenant, tout de suite. Sinon, il peut y avoir un vent contraire, il peut y avoir trop de surfeurs, la marée peut être trop basse, il y a les rochers qui sont trop près. Donc, tout peut changer. C'est comme dans la vie, il faut profiter de l'instant, savoir.
Oui, mais pas plonger dans l'égoïsme non plus.
Non, voilà, c'est-à-dire qu'il faut partager aussi. Il y a des règles de partage, comme dans la vie. C'est ça que j'essaye de faire. J'essaye d'expliquer dans ce livre que pour surfer sa vie harmonieusement et en équilibre, c'est le grand mot du livre, il faut aussi des règles. Et ces quelques règles, j'essaye de les donner. Ce n'est pas seulement des règles de sport, des règles de nutrition, des règles de relation aux autres, mais c'est aussi des règles d'empathie, d'altruisme, de partage, de solidarité, voire de générosité.
Et donc, c'est comment survivre à la complexité du monde et à son accélération, et quand même d'avoir encore une maîtrise aussi sur cette vie sans dépouiller celle de son voisin. Donc là, on va pouvoir effectivement parler de lien avec l'environnement. Et puis, comme vous avez choisi, trois thèmes, vous êtes le rédacteur en chef, on va avoir un homme que vous connaissez bien, je crois que vous avez eu quelques maisons d'édition communes, qui est Jean-Marie Pelt. Vous connaissez Jean-Marie?
J'aime beaucoup.
Bien sûr. Bonjour Jean-Marie.
Bonjour Denis, bonjour à tous et surtout bonjour Joël de René. Nous avons beaucoup de souvenirs communs.
Ah oui, vous avez fait beaucoup de surf avec Joël de René, me semble-t-il.
Oui, absolument.
C'est ça. En Lorraine.
Nous étions ensemble il y a une quarantaine d'années. Nous avons publié des bouquins chacun en même temps, pratiquement, sur l'origine de la vie pour Joël, un livre que j'aimais beaucoup. Et puis il y a eu ce formidable livre qui était Le Macroscope. Oui. Que j'ai adoré.
Et alors, dans Le Macroscope, on va dire qu'il y a un hommage assez appuyé de Jérémy Rifkin, hein, parce qu'en fait, les grandes idées de ce couplage de troisième, on va dire, révolution industrielle, se trouvaient déjà, il y avait tous les ferments qui se trouvaient déjà dans le livre de Joël de René en 75.
Oui, absolument.
Alors Jean-Marie, donc chez vous, bien sûr, c'est la Lorraine, donc là c'est pas complètement l'hiver, mais vous avez rallumé, j'imagine, le feu dans l'âtre en ce moment.
Pas vraiment.
Pas vraiment, pas non. Complètement, alors rassurez-nous quand même. Et première question concernant, effectivement, première interrogation de Joël de René, concernant les produits naturels pris quotidiennement pour une meilleure santé. Qu'est-ce que vous vouliez poser comme question à Jean-Marie?
Voilà, Jean-Marie, je voulais te poser la question de tous ces produits dont on parle tout le temps. Évidemment, le thé vert, le curcuma, le jus de grenade, un petit verre de vin rouge si c'est du Bordeaux, du chocolat noir et blablabla, des fruits et des légumes. Ma question, c'est est-ce que finalement tout ça ne doit pas être pris en synergie? C'est-à-dire, c'est pas ou l'un ou l'autre, comme les filières énergétiques dont on parlera tout à l'heure certainement. C'est pas ou l'un ou l'autre, c'est pas que du thé vert ou que du jus de grenade. C'est la synergie de ces éléments qui vont conduire, comme tu le sais, à ce qu'on appelle l'épigénétique, c'est-à-dire la modulation de l'expression des gènes par son comportement. Qu'est-ce que tu en penses?
Moi, j'aime beaucoup cette idée. Je vois toujours la même sensibilité, absolument. Alors, il faut éviter de se cramponner à un produit, de se cramponner à une idée. Il faut aller vers ce que Edgar Morin, avec qui j'ai passé toute la journée d'hier, appelle la pensée complexe. Mmh. Et cette idée de synergie est une idée nouvelle, mais très importante. Nous l'avons beaucoup vérifié, nous, en ce qui concerne l'effet des plantes médicinales. Nous avons mis en évidence des synergies qui étaient inconnues et qui témoigne de cette idée, en effet. Alors, tu as cité le thé vert, tu as cité le curcuma, on pourrait citer le ginseng et encore beaucoup d'autres plantes qui sont effectivement connues pour leurs effets, à la fois souvent sur le cancer, donc c'est utile de les utiliser en même temps que les thérapies classiques anticancéreuses. Ce sont des plantes souvent aussi qui sont stimulantes, immunostimulantes. Je pense au ginseng ou à l'éleutérocoque. L'éleutérocoque, c'est le ginseng des Russes. Cette plante pousse autour du fleuve Amour, le si bien nommé fleuve de l'Extrême-Orient de Sibérie. Et ces plantes ont ce qu'on appelle des effets adaptogènes. Moi, j'aime beaucoup cette idée. elle nous permet de mieux résister au stress, à tous les sortes de stress, les chocs affectifs, les stress psychologiques, les stress dans le mode de vie trépidant qui est le nôtre, mais aussi, par exemple, les stress climatiques, la vague de froid, etc. Et bon, il y a quand même beaucoup d'essais effectués sur des animaux de laboratoire qui confirment ces propriétés. Alors, malheureusement, il y a aussi ce qu'on trouve un peu dans la plus grande pagaille sur Internet, qui mettent en avant des panacées, des plantes qui auraient toutes les propriétés. Alors, il y en a deux, comme ça, des plantes de longue vie, qui viennent du Tibet, qui font l'objet d'un commerce intense. Je pense à ce champignon qui est le cordyceps, qui mériterait d'être très étudié sur le plan pharmacologique et clinique. Je pense à cette espèce de plante grasse qui est le rhodiola. Alors, ces plantes, c'est extraordinaire. Elles font l'objet de rumeurs répandues partout. Elles font l'objet d'un commerce intense, mais elles ne sont pas reconnues par ma profession jusqu'à présent, disons par le monde de la pharmacologie.
Parce qu'on manque de quoi? D'expérimentation scientifique?
On manque absolument d'expérimentation précise. Et dans ces cas-là, on manque toujours d'expérimentation clinique. C'est-à-dire qu'on a parfois des expérimentations pharmacologiques sur des animaux de laboratoire, mais il n'y a pas d'expérimentation en double aveugle sur des populations humaines du style épidémiologique ou du style clinique. Alors, on est dans le vague. Et ben, tu sais, tu connais beaucoup mieux Internet que moi, que Internet, il y a le meilleur et le pire, naturellement.
Joël. Bien sûr, mais oui, tu vois, mais le problème de ces essais cliniques, c'est que ça coûte cher.
Absolument.
Et qu'en général, ce sont les grandes entreprises pharmaceutiques qui payent des essais cliniques, alors que là, ce sont des produits de prévention qui empêchent d'être malade.
Tout à fait.
Si j'ose dire. Et donc, il y a un problème déontologique, si j'ose dire. Voilà. Et puis, je pense aussi que les produits que tu as cités, les plantes que tu as citées, toutes ont, la plupart d'entre eux, en tout cas les fruits et les légumes, des flavonoïdes. On sait que ce sont des polyphénols qui ont un effet très important sur l'oxydation et l'inflammation. Or, plus on va maintenant...
D'où le fameux verre de vin, d'ailleurs.
D'où le fameux verre de vin et le chocolat noir. D'où on sait maintenant de plus en plus, notamment avec l'épigénétique dont je parlais tout à l'heure, que les deux grands tueurs qui conduisent à toutes les grandes maladies dégénératives du troisième âge ou des seniors sont l'inflammation et l'oxydation. Qu'il s'agisse de la cataracte, du diabète, d'Alzheimer, des rhumatismes et certains cancers, inflammation et oxydation. Et le régime fruité et légumes est un des meilleurs moyens, des meilleurs médicaments naturels. Alors, ça ne fait pas plaisir à l'industrie pharmaceutique, évidemment, puisqu'on peut trouver à très bon marché
on est pas là pour ça,
des produits non brevetés. Mais ça vous guérit et ça vous permet de vous maintenir en bonne santé. C'est ça, surtout, ce que j'essaie d'expliquer dans mes bouquins, dont le précédent, que j'avais écrit, tu sais, avec Jean-Louis Servan-Schreiber et François Clauset. Une vie en plus, la longévité, pourquoi faire. C'est que c'est la constance de l'équilibre, encore une fois. On parle beaucoup d'équilibre dans cette émission à cause du surf. Mais c'est la constance de l'équilibre qui permet de se maintenir en bonne santé. Pas d'avoir des à-coups permanents.
Oui, c'est tout à fait ça. Alors, pour l'alimentation, les sacs fruits et légumes, c'est très important. Moi, je conseille toujours, Joël, de les prendre bio, parce qu'on a en plus l'absence de pesticides. Et puis alors, je recommande, en effet, et nous le faisons nous-mêmes, du thé vert et le verre de vin rouge.
Voilà.
Je pense que tout ça crée un ensemble heureux et harmonieux. Et si on peut aimer comme les gens de l'Inde, le curry, là, j'étais hier à Tapovan, c'est un lieu de cure ayurvédique où on consomme énormément de curry. Et on sait que dans l'état d'Orissa, en Inde, qui est encore très peu évolué, où l'agriculture est restée très traditionnelle, où on n'utilise pratiquement pas de pesticides, où on consomme beaucoup de curry, alors effectivement, le taux de cancer est plus bas.
Et les fameux curcuma, donc on va le trouver dans le curry, c'est ça?
Oui, tout à fait.
Oui, on peut l'acheter en poudre dans n'importe quel magasin bio, on le met dans sa soupe, une demi-cuillère à café, et puis voilà.
C'est ce qui donne la couleur jaune du curry.
Voilà.
Voilà, c'est une racine.
Alors, on peut tout de suite dire aussi, j'avais commencé un petit papier d'humeur pour une autre émission, mais peu importe, que la corne de rhinocéros ne marche absolument pas. Donc on flingue des rhinocéros sur la virilité. Pas du tout. Donc arrêtez de tuer les rhinocéros pour des conneries, il faut bien le dire. Merci beaucoup, cher Jean-Marie.
Oui.
Je vous renvoie donc aussi, donc, on reprendra nos conversations, mais donc votre dernier livre, c'est « Cessons de tuer la terre pour nourrir l'homme, hein, pour en finir avec les pesticides ». Et puis bah, vous serez encore avec nous la semaine prochaine, Jean-Marie. D'accord.
Oui, absolument. J'étais très content de rencontrer Joël. On a bien des souvenirs communs, n'est-ce pas?
Moi aussi, Jean-Marie.
Et ben, vous ferez ça en dehors, mais c'est très bien. Merci à tous les deux. Et puis, on poursuit notre voyage, mais on va quand même s'offrir. Allez, on vous dédie cette chanson, l'affaire Louise Trio, Jean-Marie.
C'est de mon amour, c'est petite émission qui respire sur France Inter.
J'ai pris leur place, alors elles s'effacent. Quand les vérités sont banales, elles s'étalent dans le journal. Il vaut mieux tourner la page, partir en voyage. J'irai voir tôt ou tard si les sirènes existent sur le dos des baleines. Je suivrai leur piste, car nul ne résiste au charme doux de leur chant d'amour. J'irai voir tôt ou tard si les sirènes insistent sous les flots qui m'entraînent. Je suivrai leur piste.
non, pas une mobilette, comme le disait Jean-Baptiste Audibert, notre programmateur. C'était Mobilisme Mobilé, donc c'était l'affaire Louis Trio, et ça vieillit drôlement bien tout ça, peut-être parce qu'ils ont pris aussi des fruits ou des légumes anti-vieillissement, pourquoi pas. Et nous sommes avec Joël de Ronet, surfez la vie.com. Je vous recommande vraiment ce site qui marche très bien. Là, vous aurez beaucoup, beaucoup d'informations donc avec ce livre, hein, aux éditions Les Liens qui Libèrent. Faites-nous la différence rapidement avant qu'on passe à la démocratie énergétique qui va bien nous préoccuper, entre justement le rapport de flux que vous mettez en avant et les rapports de force qui sont, on va dire, habituels.
Je ne les oppose pas complètement, je dis qu'ils sont complémentaires. Le rapport de force, comme son nom l'indique, se fonde sur des forces, la physique, la géométrie. Ce sont des forces qui s'affrontent l'une contre l'autre, dont on ne peut sortir que par une escalade. Ce qui est donc discontinu et donc risqué et dangereux. Et ce qui a primé dans ce qui a construit nos civilisations, c'est deux éléments, deux mots, je vais les retrouver différents dans le flux, c'est la force et l'élément, l'individu, l'atome, la particule. Le rapport de flux, c'est un échange constant, fondé sur l'information. On s'adapte à un flux entrant et à un flux sortant. Et ces rapports de flux, c'est comme un seau qui se remplit et qui se vide en même temps. On peut mettre un trait sur le seau transparent, mais si on règle les deux robinets, celui d'arrivée et celui de sortie, on a un niveau stationnaire. Attention, je n'ai pas dit un niveau statique, je dis un niveau stationnaire. C'est-à-dire que ce rapport de flux est dynamique. Toutes les molécules d'eau se sont modifiées en permanence. Donc les rapports de flux, à la différence de tout à l'heure, rappelez-vous les deux mots force et élément, c'est lien. J'ai l'air très content d'ailleurs d'être édité par une maison qui s'appelle Les Liens qui Libèrent,
oui. Je trouve ça formidable.
C'est lien et flux. Par exemple, flux de quoi ? Eh bien, flux de savoir-faire, flux d'éducation, coéducation citoyenne participative, flux de troc, d'échange, de réparation, banque de temps. Et on va voir arriver l'irruption dans la société de flux, et ce que j'appelle la société fluide, du peer-to-peer qu'on a connu pour la musique et la vidéo. Mmh. Et le peer-to-peer va s'étendre à la banque. Les gens vont se prêter de l'argent entre eux. C'est déjà le cas. Il y a des banques en peer-to-peer, l'assurance en peer-to-peer et l'énergie en peer-to-peer, bien évidemment, quand les gens vont vendre de l'électricité, la partager et l'échanger entre eux.
Alors, on surfe justement sur cette vie, cette vie de demain là, qui prend forme. On a un vieux monde qui résiste encore et qui ne veut pas mourir. Et puis, on a un monde qui est en train de naître doucement. Et justement, avec ces nouveaux flux et avec cette société, donc Internet, vous dites « Soyons les indignés de l'énergie prescrite, sortons du monopole énergétique ». Aujourd'hui, les réseaux sociétaux se mettent en place un petit peu partout dans le monde. Et actuellement, on est dans la position où le consommateur, l'usager, le client, prenez le mot que vous voulez, est en train de regarder le compteur en train de tourner et est complètement impuissant. Alors, qu'est-ce que ça va être demain et qu'est-ce que l'on préconise ? Je citais Jérémy Rifkin parce que déjà dans les années 75, vous aviez parlé de cela, de cette troisième révolution industrielle. On rappelle que la première, c'était, on va dire, le couplage entre le charbon et, pour faire simple, la machine à vapeur. La deuxième révolution entre le pétrole et l'automobile. Et la troisième, celle de l'énergie renouvelable avec l'hydrogène, on va y venir. Et évidemment, tout le système Internet. Donc, ça va être quoi demain ?
D'abord, aujourd'hui, nous sommes soumis à deux pouvoirs quasi totalitaires. Je m'excuse de le dire comme ça, c'est le pouvoir pétrolier et le pouvoir nucléaire. On est assisté, soumis, passif. Vous voulez de l'électricité ? Je tire un fil depuis sa centrale énergétique jusqu'à votre compteur, vous payez, je m'occupe du reste. Vous voulez faire marcher votre bagnole ? Ok, vous prenez de l'essence à la pompe, je m'occupe du reste. Non. Moi, je pense que nous devons aller vers une démocratie énergétique que j'appelle l'écomobilité. Pourquoi je l'appelle l'écomobilité ? Parce que nous avons réussi à vaincre le temps et l'espace avec l'automobilité en un siècle. L'automobile nous permettant de partir quand on veut, où on veut, avec qui on veut, avec la charge qu'on veut. L'info-mobilité, c'est la capacité de conquérir l'information, de la produire, de la recevoir, de l'échanger. C'est le smartphone qui est un peu l'équivalent de l'automobile. Pourtant, dans le monde énergétique, nous sommes, comme je l'ai dit, soumis, assistés, passifs. Mmh. Or, tout est en train de changer. Avec quoi ? Avec les énergies renouvelables. Alors, on va me dire, mais oui, mais telle filière contre telle autre. Non.
La vision Parce que c'est comme ça que pensent encore un certain nombre de personnes.
Évidemment, hein. Évidemment, les politiques et beaucoup d'industriels. Et je dirais même, malheureusement, certains écologistes qui pensent surtout à sortir du nucléaire. Alors que le futur, je le dis en quelques mots, c'est la mixité énergétique. Il y a 12 énergies renouvelables, pas 3, 12. Il y a non seulement les deux énergies solaires, thermiques et photovoltaïques. Il y a l'éolien, l'hydrolien. Il y a les trois biomasses, les granulés de bois. Il y a le biocombustible. Il y a également le biogaz. Et puis, il y a l'énergie des mers. L'énergie des vagues, l'énergie de l'océan, la différence thermique des océans, la géothermie, l'hydroélectricité. Les 12 doivent être combinés. En combinant
c'est le mix.
C'est le mix. Et oui. En combinant ces énergies, on a des gigawatts d'électricité potentielle parce que les ressources aléatoires que sont le vent et le solaire peuvent être combinées avec des stocks permanents que sont l'hydroélectricité, la géothermie ou la biomasse. Mais, voilà le mais, c'est que pour que ce mix soit catalysé et donne en continu un baseload, comme on dit en anglais, c'est-à-dire de l'électricité en continu, il faut une grille intelligente. Une grille qui, comme dans notre corps, qui sait à la fois utiliser l'énergie et la stocker quand on n'a pas besoin, c'est une grille intelligente qu'on appelle la smart grid, la grille intelligente, qui, avec des capteurs à l'intérieur, peut s'adapter au jour, à la nuit, à l'été, à l'hiver, et permettre à chacun d'obtenir de l'énergie et de fabriquer de l'énergie pour les autres. Et ça, ça permettra à la vie de beaucoup de gens dans le monde, hein, pas seulement de moi, une sortie progressive du tout nucléaire à 75% dans notre pays et une sortie équilibrée sur 15, 20, 30 ans, je ne vais pas rentrer dans les détails, avec une création massive d'emplois et une, je termine, responsabilisation des gens. Ce que je critique dans le nucléaire, ce n'est pas seulement le danger. Il en faut du nucléaire pendant longtemps, mais c'est surtout la déresponsabilisation des gens vis-à-vis de ce qui est essentiel à leur vie, familiale, personnelle, professionnelle et leur futur, la démocratie énergétique.
Alors ça, c'est ce que l'on dit aussi dans cette émission, c'est-à-dire que depuis un certain temps, c'est pour ça que c'est une révolution totale, c'est-à-dire que les gens vont passer de l'état de consommateur à producteur, et ça va partir du bas pour aller vers le haut, c'est-à-dire à partir de chez soi, c'est à partir du village, après de la ville.
Comme Internet. C'est parti, c'est bottom-up. Le web 2.0, c'est la création des gens. Et j'ajouterais que Rifkin, je l'avais dit un peu avant, mais Rifkin est revenu beaucoup sur cette notion, c'est que les villes et les villages peuvent devenir des producteurs d'électricité. Pourquoi ? Parce que de plus en plus, les bâtiments seront, comme on les appelle, à énergie positive. Je vous donne un exemple. À Dijon, il y a une tour qui s'appelle la tour Elitis. Cette tour Elitis, c'est une grande tour de bureau. Eh bien, elle s'alimente...
À peu près un an, me semble-t-il, elle a été inaugurée.
Elle s'alimente aux granulés de bois, avec une trémie continue. Il y a des panneaux solaires, des panneaux photovoltaïques et thermiques sur les toits. Économie d'énergie, matériaux économiques. Et elle refabrique 80 mégawatts d'énergie qu'elle recède au réseau. Donc, les trois E pour moi, les trois E, c'est économie d'énergie, les négawatts, efficacité énergétique... couplé aux 12 énergies renouvelables combinées entre elles dans le mix, le tout étant délivré par un réseau intelligent, la Smart Grid.
Alors là, il faut aussi un vrai choix politique, parce que là, vous rappeliez une phrase de l'ancien président de la République, donc Nicolas Sarkozy, qui disait en gros, le nucléaire, c'est pas à gauche, c'est pas à droite, c'est pas de la politique, c'est la France. Ça nous aurait peut-être d'ailleurs épargné aussi un débat sur l'identité nationale.
C'est une vision totalitaire.
Voilà. Et alors, la question quand même, est-ce que la France, enfin, pour parler que d'elle, parce qu'on rappelle qu'on est un de la population mondiale maximum. Mais quand même, est-ce qu'elle va continuer à investir, à assurer, à dépenser des milliards pour à la fois assurer la sécurité des anciennes centrales, construire de nouvelles centrales géantes, donc comme Flamanville où l'affaire est partie, démanteler les anciennes, retraiter les combustibles, stocker les déchets. Et en même temps, vous nous dites sortir en souplesse du tout nucléaire.
Donc... C'est pas possible de faire tout ça ensemble. C'est impossible. Il faut aussi pouvoir investir dans le biseau. Il y a un biseau qui se ferme sur 20-30 ans, qui est le nucléaire classique, et un biseau qui s'ouvre, ce sont les énergies renouvelables combinées et distribuées par la Smart Grid. Donc, aujourd'hui, continuer à renforcer des vieilles centrales, à prévoir le démantèlement. Vous savez que l'EDF a prévu 68 milliards d'euros pour le démantèlement des centrales. En fait, les évaluations internationales, c'est 175 milliards. Ce n'est pas ça qu'on va investir, évidemment, dans les énergies renouvelables combinées entre elles et adossées à une smart grid. Or, l'Allemagne, qui arrête cette centrale, dont on dit oui, mais elle va se nourrir, si j'ose dire, du gaz russe, de l'éolien offshore, du charbon, elle va acheter de l'électricité nucléaire à la France. En fait, c'est faux. Le ministre de l'énergie allemand a dit que ça allait être modulaire. Ce sera peut-être du charbon pendant 10-15 ans, ensuite de la biomasse, ensuite ceci, ensuite cela. Mais surtout, l'Allemagne construit 3600 km de smart grid pour 35 milliards d'euros, ce qui veut dire qu'ils ont décidé d'investir 35 milliards d'euros. Et ça, c'est pour les 100 ans à venir. Ce n'est pas comme les centrales pour bidouiller, rafistoler et amortir des centrales qui, maintenant, sont hors de la logique normale de la démocratie énergétique, puisque, un, ça déresponsabilise les gens. Deux, c'est dangereux. Faire bouillir de l'eau avec du MOX, ce n'est pas une très bonne idée. Puis en plus, ça laisse des déchets qui durent des millions d'années ou des milliers d'années. Donc, sortons de ça tranquillement. En douceur, parce qu'il ne s'agit pas de faire un référendum en disant si 51% des gens sont contre, on arrête tout de suite. Pas du tout. Et d'ailleurs, je dis dans mon livre que je ne suis pas du tout contre des centrales nucléaires de 300 mégawatts enterrées, connectées à la smart grid, et que le nucléaire, il fait partie de mon équation. Alors, je vais vous la dire, mon équation. Oui. Là, voilà. Écoute, alors, EF, énergie du futur, égale ECN plus 3E plus MIX plus SG.
Bien sûr, ce qui veut dire.
Ce qui veut dire énergie du futur égale énergie classique et nucléaire, on ne va pas les arrêter du jour au lendemain, plus les 3E, économie, efficacité, les 12 énergies renouvelables, plus mix, combiné entre elles dans une vision systémique et matricielle de l'énergie, et plus parler de termes de filière et en centrale, c'est des mots complètement dépassés, et la smart grid qui va diffuser tout ça, et dont on est en train de faire le roaming européen des smart grids connectées entre elles, comme on a aujourd'hui le roaming du téléphone. Quand on est dans un pays, on peut s'appeler, on peut se téléphoner.
Alors comment les gens vont pouvoir prendre cette affaire-là aujourd'hui? Parce qu'ils ont envie d'être acteurs. Je vous parlais effectivement d'un vieux monde qui résiste. C'est-à-dire que les lobbies industriels aujourd'hui n'ont pas intérêt à décentraliser. C'est-à-dire une décentralisation.
Ils ne sont pas pour la démocratie énergétique, je peux vous dire. Au contraire. Et d'ailleurs, on continue à construire des maisons qui ont des radiateurs électriques.
Bien sûr.
Qui, sur le plan de l'efficacité énergétique, est archi nul. Donc comment faire? Et ben, là, il y a une chance qui arrive. Il y a un nouveau président qui dit je vais arrêter une centrale à titre symbolique et je vais passer de 75%, ce ne sera pas moi qui le ferai, mais mon successeur sans doute, peut-être, de 75% d'électricité tout nucléaire à 50%. Il y a quelque chose qui est en train de changer. Mmh. Est-ce que ceci, moi je l'espère, mais j'en suis pas sûr, va amorcer la vision systémique de l'énergie, la vision matricielle des combinaisons énergétiques entre elles, la vision de la smart grid, le réseau qui permet un baseload continu, une fourniture continue de gigawatts d'électricité, point d'interrogation.
Alors je vais vous emmener dans quelques instants en Corse, et là vous allez voir aussi que l'on travaille, donc à titre tout à fait expérimental, sur le mariage entre le solaire et l'hydrogène, et ce sera juste après cette chanson.
So hold my hand, I'll walk with you, my dear.
The stars creak, I should sleep, it's keeping me awake.
It's the house telling you to close your eyes.
And some days I can't even trust myself.
It's killing me to see you this way.
Cause though the truth may vary, this ship will carry on.
Tell her that I miss our little talks.
Soon it will be over and buried with our past.
We used to play outside when we were young and full of life and full of love.
Some days I don't know if I am wrong or right.
Your mind is playing tricks on you, my dear. Cause though the truth may vary, this ship will carry on.
CO2, mon amour, Denis Chessou.
Interprété par le groupe des Monstres et des Hommes, c'était Petite Parlotte. Moi, je vous fais la traduction parce qu'après, on se fait engueuler. On dit, mais vous passez des chansons en anglais, on n'y comprend rien, etc. Alors, bon, nous sommes avec Joël de Ronay. Nous surfons, non pas sur la vie de Joël de Ronay, mais quand même le surf comme métaphore de la vie. On va aller en Corse, mais auparavant, dans votre... Donc là, il y a tout ce chapitre du MOX au MIX que vous expliquez très très bien, vous nous l'avez dit. Ça donne un grand coup de pied dans la fourmilière, ça fait le plus grand bien. Ce qui fait du bien aussi, ce sont en fait d'autres manières de penser l'industrie. L'industrie classique, on transforme la matière première, on utilise de l'énergie, on a un capital de brevets, d'innovation, etc. Et on a souvent des usines qui sont centralisées, on le voit voit dans l'aviation, dans la chimie, l'agro-industrie, l'automobile, que sais-je. La nouvelle industrie naissante, qu'est-ce que c'est et que sont les personnages centraux qu'on va appeler des doueurs, des gens qui font? C'est un néologisme, mais racontez-nous.
Alors, cette nouvelle industrie ne va pas totalement remplacer l'autre. On a besoin de pyramides centralisées, de grosses usines, de moyens, de capitaux de production importants. Mais depuis 2-3 ans, un mouvement viral, comme on le dit, est en train d'envahir le monde, de la Chine au Brésil, en passant par la Russie, l'Europe et les États-Unis, qui s'appelle le mouvement des « makers ». Alors moi j'ai traduit maker, faiseur, c'est pas très bon.
Oui, ça fait un peu faiseur faisant, donc c'est pas
terrible. Voilà, c'est plutôt péjoratif. Donc j'ai traduit par le monde des doueurs, comme on dit un joueur, on dit un surfeur, un golfeur, les doueurs. Qui sont-ils? Ce sont beaucoup de jeunes. C'est un peu le même mouvement que l'Internet 2.0. C'est un peu le même mouvement que la biologie 2.0 que j'ai décrit dans un livre précédent, L'homme créa la vie, sur la biologie de synthèse. Ce sont des hackers qui se mettent dans des studios ensemble avec des imprimantes 3D, des scanners et qui fabriquent des objets. Ils fabriquent des objets personnalisés. La grande différence avec l'industrie que vous venez de citer, c'est que celle que nous connaissons, elle est centralisée, elle est massifiée et elle est pour des produits standards. Celle qui est en train de naître est décentralisée, elle est déstandardisée et elle est faite pour des produits personnels. Quoi ? Eh bien, on peut fabriquer des peignes, on peut fabriquer une couverture d'iPhone, on peut fabriquer une semelle de chaussures, on peut fabriquer une coque de bateau. Des architectes commencent, tenez-vous bien, à utiliser des imprimantes 3D pour imprimer des charpentes de maison. Donc, c'est des énormes imprimantes 3D. Une imprimante 3D fonctionne en déposant des couches les unes sur les autres, et ça fait un objet physique. On va d'abord chercher l'objet numérique, on le transforme, on change sa couleur, on change sa forme. Ensuite, on appuie sur print, si j'ose dire, oui, c'est simplifié. Oui, oui. Et à ce moment-là, l'imprimante 3D se met en route, et à partir de plastique ou à partir de dépôts successifs, elle fabrique des objets. Donc, à la Villette, à Univers Sciences, qui est la fusion de la Cité des Sciences et de la Cité du Palais de la Découverte, on a un Fab Lab, un laboratoire de fabrication, comme il y en a maintenant dans le monde qui se crée, où des jeunes échangent leurs inventions, leurs créations, leurs idées, leurs innovations. Il n'y a plus de brevets. Les gens se disent, tu as fait ça, c'est génial, est-ce que je pourrais utiliser ça pour faire ça? Et ce mouvement est en train de se développer à une vitesse incroyable. Les Fab Labs dans le monde, ils s'en ouvrent toutes les semaines. Et donc, cette nouvelle industrie, c'est une industrie de la personnalisation, de la déstandardisation et de la participation de chacun à l'encontre un peu de la concurrence traditionnelle, extrêmement lutte des rapports de force dont nous parlions au début.
Ce qu'on espère simplement, c'est que les objets en question auront une utilité et non pas simplement serviront uniquement à faire retourner donc la grande machine. Alors je vous emmène en Corse parce qu'en fait, c'était aussi un sujet que vous souhaitiez entendre. Là, nous avons Philippe Poggi qui n'est pas en direct parce qu'il est parti au Japon. Il est parti au Japon, d'ailleurs, c'est pas un hasard parce que au Japon, lorsque vous fabriquez de l'énergie renouvelable, vous pouvez la vendre à condition d'avoir le stockage nécessaire. C'est pour ça que les Japonais sont un peu plus en avance sur le domaine des batteries que d'autres pays. Et donc, nous sommes, je ne sais pas si vous voyez les îles des Sanguinaires, eh bien, juste en face, vous avez, dans un ancien décor de Western désaffecté, pendant des années, il y a eu des panneaux solaires qui étaient là, qui ne servaient plus à grand-chose. Donc ça a été en pointe à un moment. Et puis maintenant, eh bien, il y a le projet MIRT. Alors le projet MIRT, dont Philippe Poggi est à la tête, ça veut dire mission hydrogène renouvelable pour l'intégration au réseau électrique, donc dans la colline, dominant la pointe des Sanguinaires. Racontez-nous, donc Philippe Poggi, je vous ai eu au téléphone hier, quel est le principe?
Alors, l'idée, c'est d'associer à la production d'énergie produite par des panneaux solaires, l'énergie électrique, une forme de stockage, et plus particulièrement ce qu'on appelle un vecteur énergétique, qui en l'occurrence est l'hydrogène, qu'on a associé cette centrale photovoltaïque avec un instrument qui s'appelle électrolyseur, qui permet de dissocier la molécule d'eau, H2O, en hydrogène et oxygène, donc ce sont deux gaz que l'on stocke, et qu'ensuite on peut réutiliser via un processus entre guillemets inverse, que l'on appelle pile à combustible, qui recombine ces deux gaz pour produire quoi? De l'eau, de l'électricité et un peu de chaleur.
Ça veut dire qu'en fait vous répondez au problème d'intermittence de la production d'énergie?
Alors, l'idée générale, c'est bien sûr de dire comment je peux régler le problème de variations brutales sur un réseau électrique, par exemple, ou comment satisfaire un besoin la nuit alors que ma centrale photovoltaïque ne va pas pouvoir le satisfaire.
Alors, qu'est-ce qui se passe le jour et qu'est-ce qui se passe la nuit?
Alors, dans la journée, par exemple, vous avez du soleil. Ce soleil produit de l'énergie électrique via les panneaux photovoltaïques, mais vous n'en avez pas besoin parce que la charge n'est pas présente, etc. En revanche, la nuit, on commence tous à consommer, hein, à partir de 19h, on rentre à la maison, on allume nos appareils. Et ben, l'idée, c'est de produire de l'énergie électrique issue donc de cette énergie solaire à partir de 19h, de 19h à 22h pour passer un point de consommation.
Alors, est-ce que c'est une idée en fait qui est nouvelle ou bien quelque chose que vous perfectionnez ?
Alors en fait, ce n'est pas une idée nouvelle. Hein, sur les papiers, c'est des choses qui tournent depuis quelques années. Là, l'innovation, elle reste dans la mise en œuvre du démonstrateur et surtout l'échelle de ce démonstrateur qui est vraiment une échelle pré-industrielle. Qui, en gros, on est sorti du laboratoire de nos paillasses pour dire, allez, on met quelque chose d'envergure pour regarder comment ça se comporte réellement.
Quel est le rendement global en électricité ?
Alors, le rendement, si j'enlève les panneaux photovoltaïques, le rendement global de la chaîne qui est je produis l'hydrogène, je stocke et je réutilise cet hydrogène, de l'ordre de 30 à 40%. Donc vous voyez, le rendement électrique n'est pas très élevé. Hein. Bon, comparé à un moteur, oui, un moteur c'est 30% maximum. Par contre, si je prends des batteries classiques de type ion lithium, c'est plus de 70% de charge-décharge. Par contre, après, d'ailleurs, c'est pour ça que tout à l'heure j'ai dit le mot chaleur, cette chaleur, on la récupère, on la stocke pour faire de la cogénération ou de la trigénération, faire du chaud ou du froid dans des bâtiments. Et donc là, je vais avoir un rendement énergétique qui va être supérieur et qui va avoisiner les 70%.
L'idée, c'est de remettre après donc, cette énergie, quand on en a besoin, sur le réseau ou bien de l'utiliser de manière proche ?
Non, là, on est sur un usage purement réseau électrique. J'injecte sur le réseau électrique.
D'accord. Le risque d'explosion de l'hydrogène, où en est-on ?
L'hydrogène, c'est un gaz. Donc un gaz qui se stocke là, dans notre mur sous forme gazeuse et comprimée à 35 bars. Il y a le risque, comme tout gaz, hein, comme du méthane. Donc là-dessus, vous avez des protections, des règles de sécurité à mettre en œuvre et du contrôle et de la surveillance.
Alors, qu'est-ce que l'on peut maintenant espérer pour demain ? Donc, c'est un démonstrateur, mais ouais. Le stade industriel n'est pas si loin que ça. Qu'est-ce que l'on pourrait espérer ?
On peut espérer que notre programme de recherche et développement s'étale jusqu'en 2015. On peut espérer qu'à l'issue de ce programme, d'ici 2015, notre partenaire industriel, qui est Lyon, filiale d'Areva, et qualifier ces équipements, que l'on ait pu mettre en place vraiment des algorithmes de pilotage pour que ce système soit dupliqué, soit pour des usages directement d'injection sur les réseaux électriques, soit dans ce qu'on appelle aujourd'hui des réseaux intelligents, et donc participer à une amélioration des formes de stockage d'énergie avec des usages bien spécifiques.
Est-ce que vous n'avez pas eu quelques petites difficultés administratives pour mettre tout ça au point ?
Non, c'est un projet qui est soutenu fortement par la collectivité territoriale de Corse, soutenue par l'État et les différents services. On est soumis à déclaration parce que c'est une installation classée pour l'environnement.
Vous avez fait donc attention d'ailleurs aussi aux tortues qui...
Et donc sur notre étude d'impact, on est sur un site déjà anthropisé où il y a une activité humaine, comme vous l'avez dit en introduction. Donc on a un site qui est occupé depuis 1980. Donc on pensait qu'il n'y allait avoir aucune difficulté. Et comme le site était à l'abandon et que la nature avait repris ses droits, on est tombé sur trois tortues de Hermann, qui sont des espèces protégées. Donc il a fallu mettre en place des actions pour les protéger lors de la phase chantier, pour pas qu'elles soient blessées ou tuées. Et depuis juillet, depuis la fin des travaux, les tortues ont été libérées et elles ont regagné le maquis.
Philippe, ces énergies renouvelables, par définition intermittentes en général, donc elles perturbent les réseaux hein, qui ne sont pas forcément calibrés pour cela. Qu'est-ce que l'on peut dire sur ce thème ?
Alors ça, c'est un sujet qui est extrêmement crucial, surtout pour les réseaux électriques insulaires, donc comme la Corse, les réseaux des territoires et départements d'outre-mer. Le fait que ce soit des sources intermittentes les rend fatales pour un gestionnaire de réseau électrique tel qu'EDF, parce que derrière, il ne va pas pouvoir contrôler le productible à l'instant donné. Donc il y a plusieurs façons d'y remédier. C'est un, de pouvoir prédire leur production, donc là de mettre en place des outils pour savoir quelle est la quantité de rayonnement solaire qu'on va avoir à l'instant donné, ou bien quelle vitesse de vent on va avoir. Et l'autre aspect, l'autre vision que l'on peut avoir, c'est j'y mets du stockage d'énergie électrique. Et aujourd'hui, stocker de l'énergie électrique, c'est quelque chose qui n'est pas trivial. On sait très bien stocker à travers des barrages hydrauliques. Hein. Donc c'est pour ça qu'il faut aller expertiser, mettre en place des démonstrateurs pour justement regarder comment des filières de stockage d'énergie, donc l'hydrogène en est un, et regarder comment tout cela se comporte sur un réseau électrique en lien avec des énergies renouvelables intermittentes.
Mais alors, comment peut-on expliquer, là je prends un tout petit peu de recul, que la France était vraiment en avance avec Odeio, avec Font-Romeu, avec la centrale solaire de Vignola. On a même été en avance aussi sur les éoliennes dans ce pays. Et puis après, on n'a pas donné suite. Donc, si bien que la Corse se retrouve avec deux centrales au fioul subclaquantes, bon, qui vont passer, heureusement que les choses ont un petit peu évolué, mais enfin, vous avez du soleil, vous avez du vent, il y a de l'intelligence. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas fait ça avant ?
Bonne question. Alors, si on reprend un peu l'histoire, sur la centrale de Vignon, là, puisque c'est notre site, elle a été installée juste après le premier choc pétrolier. Donc, c'était la période, en France, on n'a pas de pétrole, on a des idées. Donc là, on démarrait les programmes de recherche et développement liés aux énergies solaires, avec la mise en œuvre donc des sites que vous avez donnés, Odéo, Témis, etc. Est arrivé en 85 le contre-choc pétrolier, donc... C'était des filières qui ont été mises à l'arrêt parce qu'on n'avait pas forcément des besoins. Nous, on a ressenti un redémarrage dans les années 90-95 avec la prise de conscience environnementale. Mmh. Voilà. Et aujourd'hui, on se retrouve dans une problématique forte, surtout dans nos territoires insulaires où, ben voilà, vous avez dit, si on doit mettre des unités de production d'énergie pour satisfaire nos besoins, ce qui est disponible sur les étagères, ben c'est les centrales thermiques, fuel, gaz. D'un point de vue industriel, ce n'est pas encore prêt. Donc il faut que l'on se positionne en termes de recherche-développement pour appuyer les industriels, pour qu'ils puissent proposer des solutions à nos décideurs.
Voilà, et donc sur les îles, encore plus. Donc merci à Philippe Poggi, enfin Philippe Podge, comme on dit en Corse. Je vous en prie, Joël de René.
Oui, j'ai souhaité qu'on parle de ce sujet, Myrthe, parce qu'il illustre parfaitement bien la combinaison des énergies, le stockage d'énergie et le rôle de la pile à combustible, qui est l'inverse de l'électrolyse, comme il l'a d'ailleurs très bien dit. Et un autre moyen de stockage qui va prendre de plus en plus d'importance, c'est la voiture électrique. Aux États-Unis, en 2015, il y aura 1 million de voitures électriques. En France, en 2020, 1 million de voitures électriques. C'est pas beaucoup par rapport au parc. Mais chaque voiture stocke 10 kilowatts. 1 million de fois 10 kilowatts, ça fait 10 gigawatts. C'est-à-dire la capacité en fait, de production de 10 réacteurs nucléaires. Mm-hmm. Donc, il y aura du stockage dans les voitures à condition que la grille, dont il a d'ailleurs parlé, la Smart Grid, soit capable d'accepter ce flux nouveau d'énergie qui perturbe la RTE, c'est-à-dire la grille actuelle. Donc, tout va ensemble, le stockage, la production décentralisée, production compensée des énergies aléatoires par des stocks permanents et la possibilité de diffuser tout ça dans la Smart Grid. J'ajouterai, puisqu'on parle de la Corse, que moi, je suis le conseiller du Premier ministre de l'île Maurice.
Vous êtes né, déjà ?
Où je suis né. Mmh. Petit pays magnifique qui est béni des dieux sur le plan de toutes les sources d'énergie renouvelable.
Un million d'habitants, à peu
près. Oui, c'est ça. Le soleil, la biomasse, la géothermie, l'énergie des vagues, enfin, tout y est.
Et sauf le dodo. Dodo pouvait
le
rien
dodo,
faire.
Il est parti. Voilà. Fini, là, le oui. Dodo, malheureusement, il est parti. Et donc, notre projet s'appelle MID, Maurice Île Durable. Et c'est l'horizon 2030-2040 d'avoir une île pratiquement autonome en énergie, en arrêtant d'importer du fioul, du charbon, du gaz et d'être capable de produire toute l'électricité dont on a besoin.
Est-ce qu'on ne va pas bloquer quand même sur ce qu'on appelle les métaux rares? Vous avez ces 17 métaux rares qui sont extrêmement précieux.
Parce que... Là, il y aura un gros problème. Ouais. Il y aura un gros problème. La Chine est le premier producteur maintenant. Là, il y aura un gros problème. On est tous conscients parfaitement à l'échelle du monde, et c'est un élément stratégique.
Alors, on va aller en Guyane, parce que ça, c'est un troisième sujet que vous souhaitiez donc développer, et je l'ai commencé par mon petit papier tout à l'heure, de ce fameux septième continent. Alors, je vous en prie, pourquoi vous souhaitiez...
J'ai été stupéfait quand j'ai appris ça, il y a 6 mois à peu près, que j'ai découvert qu'un endroit qui est une sorte d'accumulateur de déchets au nord de Hawaï, à cause des courants, il se produit une sorte de maelstrom qui accumule toutes les saletés, les saloperies plastiques qui dérivent dans la totalité du Pacifique et qui fait un continent qui a à peu près un tiers, tenez-vous bien, de la taille de l'Europe.
Oui.
Un tiers de la taille de l'Europe qui est fait de déchets sur à peu près 30 ou 40 mètres d'épaisseur qui flotte. Et on ne sait pas quoi en faire et on ne sait pas comment on va s'en débarrasser.
Alors avec 5 heures de moins, nous rejoignons Patrick Dexon, donc chez lui du côté de Cayenne, et qui est donc explorateur, qui travaille avec des scientifiques mais faisant partie de la Société des explorateurs français. Vous avez déjà rejoint d'ailleurs aussi à la rame entre le Sénégal et puis donc l'Amérique du Nord. Donc vous connaissez bien tout cela. Patrick Dexon, merci d'être avec nous. Et alors qu'allez-vous faire? Là, vous allez partir en expédition. Donc quel va être le but de l'expédition?
Oui, bonjour. Ben, le but de l'expédition, justement, comme M. de René l'expliquait, c'est quelque chose qui est très méconnu en France et en Europe. Et moi, quand j'ai traversé l'Atlantique à la rame, j'ai rencontré des déchets pendant ce périple. Alors, en beaucoup moins en grande quantité, bien sûr, mais ça m'a alerté. Puis quand j'ai fait des recherches un peu sur les déchets marins, je suis tombé sur cette énorme plaque de déchets qui se trouve dans le Pacifique Nord. Et je me suis dit, c'est quand même incroyable que personne ne soit au courant. Et donc, ma mission, c'est de faire connaître cette pollution sournoise.
C'est-à-dire qu'on est dans les eaux internationales. C'est qu'en fait, nul n'est contraint à s'engager dans une quelconque forme de dépollution, en fait.
Oui, alors, si on parle des pollutions de cette partie-là, M. Audeuronnet peut le comprendre, hein, on sait, c'est carrément impossible parce que le plastique hein, se photodégrade par les vagues, par le soleil, et on se retrouve avec des nanoparticules, des microparticules. Et si on imaginait tirer des filets très très fins pour nettoyer tout ça, ça prendrait énormément de temps, et puis en plus, on supprimerait aussi beaucoup de phytoplancton, puisque au jour d'aujourd'hui, les chiffres donnent à peu près 1 kg de phytoplancton pour 5 kg de plastique.
Quelles sont les conséquences aujourd'hui que, par rapport à cette pollution, en tout cas, qui peut être profonde, hein, ça peut aller jusqu'à 30 mètres. Je tiens à préciser aussi qu'il y a une mission aussi à peu près identique en Méditerranée, hein, qui s'appelle MED, sur ce thème-là, mais quelles sont les conséquences?
Alors, les conséquences, elles sont très graves, puisque le plastique est endocrinien, ça va rentrer dans la chaîne alimentaire. Alors moi, je ne suis pas un scientifique, je ne veux pas trop m'étaler là-dessus, mais ça va rentrer dans la chaîne alimentaire et ça va transformer les gènes humains. Et donc, on va avoir de plus en plus d'enfants handicapés. Voilà, je fais une...
Vous faites simple, d'accord. Bon, et pour les poissons, évidemment, ils confondent ces fragments avec le plancton. Les tortues sont victimes d'étouffement après avoir avalé du plastique aussi. Donc là, vous allez partir pendant combien de temps ?
Alors là, on va partir à la fin du mois de mai. On va partir pour un mois. Donc le but, c'est de se rendre sur place, bien sûr, et suivi par les médias pour faire connaître en France, en Europe et un peu partout dans le monde cette problématique.
Cette bonne nouvelle supplémentaire dont on avait besoin, mais je suis d'accord, bien sûr.
Voilà.
Mais
oui. Alors c'est vrai que c'est une pollution un peu sournoise. On connaît la fonte des glaciers, c'est spectaculaire, etc. Mais là, c'est très loin et c'est au milieu du Pacifique. Et c'est vrai qu'on n'en entend pas parler, et c'est aussi grave que le réchauffement climatique ou la fonte des glaciers ou la montée des eaux.
Bon, en tout cas, c'est autre chose, et tout ceci est aussi un peu cumulatif, on va dire. Merci à vous, Patrick Dexon, et puis donc bon vent avec cette expédition sur le 7e continent. Quelles sont les raisons que l'on a? Alors là aussi, vous êtes aussi un grand défenseur avec vos amis basques. Il y a Surfrider aussi, qui est une association assez formidable qui fait tout un travail. Vous observez l'océan, vous aussi, donc vous l'observez. Pas forcément au milieu du Pacifique, mais vous le voyez quand même évoluer.
Oui, mais je vais être positif. Surfrider Foundation a fait, dont nous sommes tous membres, a fait un formidable travail. Les mairies, Saint-Jean-de-Luz, Biarritz, Bayonne, Local, Cap-Breton, enfin sur toute la côte, ont fait des efforts. Et je vous promets que par rapport à ce que c'était il y a 10 ans, et en plus on a eu l'Erika, on a eu du goudron, ça s'améliore. Oui. Il y a moins de déchets flottants. Sure. Il y a des bateaux avec des filets qui viennent ramasser tout ça comme les chasse-neige un peu dans la montagne. Et ça change les choses.
Quel est, on va se quitter aussi de nouveau avec cette philosophie du mouvement, donc surfer la vie. On a bien compris qu'on est dans un monde qui est imprédictible, qui est discontinu, avec un flot d'informations non permanentes. Essayons de tracer quand même un avenir pour les jeunes qui nous écoutent. Donc cette jeune génération qui est née avec le net, donc la netgen comme on dit, ou la génération Y, la génération Y, qu'est-ce que ça va être demain leur vie?
D'abord qu'ils soient informés, mais pas seulement par un flux d'informations qui conduit à l'infobésité, trop d'informations. Oui. Il faut une information pertinente, donc la partager. Et écouter les seniors aussi, je suis très en faveur, je dis dans mon livre, de ce que j'appelle la coéducation intergénérationnelle. Donc sédimenter, intégrer, contextualiser tout ce qu'on apprend, première chose. Deuxièmement, se sentir responsable, à la fois sur le plan individuel et sur le plan collectif. Se sentir responsable que l'on peut changer le monde, on peut intervenir et changer les choses. Troisièmement, c'est d'avoir cette vision empathique, altruiste, pour faire en sorte qu'on puisse se mettre à la place de l'autre pour le comprendre. Et qu'il ne suffit pas de se connecter virtuellement et passer son temps dans les réseaux et avoir le risque de la rencontre réelle, in real life, comme on dit sur Facebook, mais d'affronter la réalité, d'affronter le monde qui vient, et pas seulement avec l'électronique. Je pense que je reviens sur les deux mots dont je parlais tout à fait au début, le flux et le lien. L'important, c'est le lien social, le lien humain, le lien amoureux.
Les liens qui libèrent, ça c'est votre éditeur, Joël de Renais, Surfer la vie, www.surferlavie.com. Comment survivre dans la société fluide. Merci beaucoup. Je pense qu'il va y avoir pas mal de réactions. Hein. De toute façon, ne vous gênez pas sur le site. Vous pouvez d'ailleurs podcaster cette émission pendant une semaine, la réécouter pendant 4 semaines. Merci à Michel Thomas, Alexandre Chesneau, à Juliette Hunin, notre assistante, à Fabrice Lègle qui réalisait l'émission. Et puis, ah oui, qu'est-ce que vous montrez là les petits.
Les flashcodes dans le livre.
Les flashcodes, pardonnez-moi. Il y en a 10. Donc, qui correspond au chapitre, hein, ça vous êtes ça.
Voilà. Et bah, y a des vidéos dans le livre.
Et bien, Youpi. Donc en plus, il y a des vidéos dans le bouquin, donc c'est parfait. Merci à Anne Gouzon qui a nourri les sites de CO2 Mon Amour. On va prendre de l'altitude la semaine prochaine. On va aller sur le plateau de Bure, dans les Hautes-Alpes. On va aller au pays des télescopes. Et ce sera un peu, on a marché sur la Lune avec Christian Couloumi, donc on va prendre du grand air. Et la tuile du Mont-Petit-Loup, ben, ce sera demain, oui, à 19h54, après les petits bateaux. Salut, pub.